L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Toulouse en France Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique du groupe EADS puis Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency, WARPA. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology à Moscou. Avec lui, en sa qualité d'éminent spécialiste en construction aérospatiale, nous allons tenter de comprendre les raisons, les enjeux et enfin les implications de la décision russe de révoquer la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le TICE. Nous nous pencherons également sur la confrontation Russie-OTAN en Ukraine en termes de capacité et d'efficacité des armements mis en jeu par les deux côtés et sur notamment les raisons de la résilience économique, industrielle, scientifique et technologique et enfin militaire de la Russie. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le 21 février, dans son discours adressé au Parlement russe, Vladimir Poutine a annoncé sa décision de suspendre la participation de la Russie au dernier traité l'alliant aux États-Unis relatif au contrôle et au désarmement nucléaire, le New START. Les trois raisons essentielles avancées par le chef de l'État russe justifiant sa décision sont 1. La défaite stratégique de la Russie voulue par les élites politiques occidentales et l'OTAN. 2. L'implication de l'OTAN dans des tentatives ukrainiennes de frappe contre des bases de l'aviation stratégique russe où sont stockées des armes nucléaires. Et 3. La nécessité que le Royaume-Uni et la France intègrent également ce traité étant donné qu'ils sont membres de l'OTAN et bénéficient ainsi du parapluie nucléaire américain. En plus du fait qu'ils sont elles-mêmes des puissances nucléaires. Alors, dans cette optique, le président Poutine a non seulement décliné la demande occidentale d'inspecter les sites nucléaires russes intégrés dans l'accord New START, mais il a même averti que la Russie reprendrait les essais nucléaires aussitôt qu'elle disposerait de preuves tangibles que les États-Unis en ont fait pareil. Début octobre, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie pourrait refuser de participer au TICE. Le refus de ratification américain a été à l'origine de cette décision. Et puis, la semaine dernière, le Parlement russe a approuvé la révocation de Moscou de cet accord. Le traité a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 1996. La Russie l'a ratifié en 2000. La loi qui vient d'être approuvée par le Parlement annule cette décision et le non-respect par les États-Unis, la Chine, l'Égypte, Israël, l'Iran, l'Inde, la Corée du Nord et le Pakistan, des procédures intra-étatiques nécessaires pour que le traité entre en vigueur montrent leur indisponibilité à assumer la totalité des engagements qui en découlent et poussent la Russie à adopter des mesures de rétorsion visant à stabiliser l'équilibre des engagements dans le cadre du traité en question. Ces propos ont été tenus le 25 octobre à la chambre haute du Parlement russe, par le président Poutine. Le retrait de la ratification du TICE ne signifie pas une intention de procéder à des essais nucléaires, avait-il expliqué. Alors, pour traiter de ce sujet fondamental, j'ai le plaisir de recevoir depuis Toulouse, en France, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique du groupe EADS puis Airbus Group, actuellement PDG de WARPA. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology, l'équivalent du MIT américain, à Moscou. Jean-François Geneste, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Alors, j'aimerais bien vous citer pour la première question. les propos qui ont été tenus par le ministre russe de la Défense, le général d'armée Sergueï Choïgou, le 30 octobre, lors d'une conférence de presse. Pour lui, il s'agit simplement d'une volonté d'assurer un équilibre avec les États-Unis. Par rapport à la première déclaration qui a été tenue au Parlement russe, il y a un changement là, c'est l'équilibre et les vises essentiellement les États-Unis, qui n'ont jamais ratifié ce traité. On ne parle pas de la destruction du traité, avait-il déclaré. Et c'était lors du forum sur la sécurité en Chine. Dans cette optique, les allégations occidentales concernant la hausse de la menace du recours aux armes nucléaires sans fondement, a-t-il ajouté. Et puis, il explique que ces accusations sont totalement infondées. La doctrine nucléaire russe n'a pas changé et prévoit toujours le recours aux armes nucléaires dans deux cas. En réponse à une frappe nucléaire ennemie ou en cas de menace pour l'existence de la Russie, même si des armes conventionnelles sont utilisées contre elle, a-t-il ajouté. Bon, alors, ma question, vous qui êtes un spécialiste de toutes ces questions-là d'aérospatial, de missiles et tout, avec l'existence des missiles hypersoniques actuellement, qu'en pensez-vous de cette situation? Et si l'on met cette décision en perspective dans le contexte actuel où des conflits régionaux de plus en plus dangereux éclatent, peut-on encore penser que le recours aux armes nucléaires est utopique?
Donc, je vais commencer par commenter ce qu'a dit Sergueï Choïgou pour les histoires d'équilibre. Je peux comprendre que la Russie veuille avoir l'équilibre et c'est un pas, mais c'est pas un pas complètement suffisant puisque pour le TICE, les États-Unis ne l'ont pas ratifié. Et donc, la Russie l'ayant dénoncé, c'est comme si elle l'avait pas ratifié. Donc ça met l'équilibre. Le seul problème, c'est que dans la doctrine nucléaire russe que vous avez répétée, dite, eh bien, il n'y a pas la parité, si je puis dire. C'est-à-dire que les Américains se sont dotés d'une capacité de frappe préventive. Et là, effectivement, les Russes ne sont pas entre guillemets au même niveau. Alors, je personnellement, puisque la doctrine russe c'est la même que la doctrine française, je trouve que c'est beaucoup plus sage et beaucoup plus raisonnable. Il faudrait voir comment on pourrait arriver à la parité, et c'est peut-être pas si évident que ça. On y reviendra peut-être plus tard. Mais si vous voulez, bon, il y a cet aspect. Après, il y a un autre aspect qui est plus technique. Qui pour le TICE, c'est-à-dire que bon, on interdit les essais nucléaires, mais une des voies pour le nucléaire, si vous voulez, c'est de faire des engins de plus en plus petits qui sont nucléaires, donc des petites explosions.
Donc c'est ce qu'on appelle, les ogives tactiques.
Oui, alors c'est les ogives tactiques, mais si on en met suffisamment, ça peut ressembler à du stratégique. Avec les drones, si vous envoyez 10 000 drones armés de petites bombes nucléaires, ça fera quand même beaucoup de dégâts et largement autant que le stratégique. On l'a pas encore vu, ça fait partie des plans, mais enfin bon. Le problème, c'est que si on fait ça aujourd'hui, on peut camoufler assez facilement des essais qui apparaissent finalement comme des tirs de mine et qu'on ne sait pas distinguer avec les sismographes de tirs classiques. Donc, si vous voulez, on peut faire des essais nucléaires de petite puissance qu'on arrive à camoufler, à faire passer pour des tirs de dynamite, en fait. Alors ça c'est un premier point. Bien entendu, pour les grosses armes, alors les 100 mégatonnes, 150, je sais pas, c'est complètement différent. Et de toute façon, il y a un autre problème qui est scientifique et technique, si vous voulez, c'est que vous vous souvenez que quand on a abandonné nous les essais nucléaires, Chirac avait dit on va passer à la simulation.
Oui.
Le problème, c'est qu'en simulation, on n'apprend jamais rien. Une simulation ne met comme connaissance que ce qu'on connaissait avant.
Absolument.
Alors on va bricoler des modèles, etc., mais on n'apprendra rien. J'en avais parlé d'ailleurs au numéro 2 du commissariat à l'énergie atomique dans une conférence en aparté, et qui avait reconnu que passer à la simulation nous privait de l'acquisition de connaissances nouvelles. Et donc, c'est un vrai sujet. Et j'ai du mal à croire que des militaires responsables, et notamment dans les grands pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine, se passerait d'essais complètement, si vous voulez, d'acquisition de connaissances. Je crains malheureusement. Alors en France, je ne sais pas exactement ce qu'on fait, mais franchement, techniquement et scientifiquement, ça serait un gros gâchis d'arrêter les essais. Encore une fois, on peut les faire tout petits, on peut les faire passer pour ce qu'ils sont pas. Bon, après pour les grosses bombes, puisque les Russes ont quand même sur leur torpille Poséidon, ils ont des velléités de mettre des engins de 100 mégatonnes. À un moment donné, ça serait bien de les essayer parce que dans tous les systèmes, industriels, si on change un petit peu, il y a des dérives, vous voyez, technologiques, et on peut avoir un produit qui initialement marchait et un jour il marchera plus. Donc ça me paraît quand même gros d'arrêter tout essai. Moi, je suis favorable aux essais nucléaires. Pour des raisons d'efficacité, si vous voulez. On peut pas dire qu'on est dissuasif si on n'est pas sûr que le matériel qu'on a va marcher.
Donc, et si votre propos va quand même choquer beaucoup de gens, notamment ceux qui sont, un peu beaucoup versés dans l'idéologie verte notamment. Donc, pour vous, c'est une nécessité de reprendre les essais parce qu'il s'agit d'arriver justement à la parité parfaite de telle façon à rendre justement une guerre, qu'elle soit conventionnelle ou nucléaire, par exemple mondiale, impossible, du moment que il y a l'équilibre de la force qui rendrait toute tentative de continuer un conflit absolument catastrophique.
Non, la parité, c'est pas vraiment la parité. La parité, je vous ai dit tout à l'heure, elle est politique, c'est-à-dire la non ratification du TICE par la Russie. Bon, ça c'est une forme de parité. Il n'y a pas de parité sur la doctrine d'emploi. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faudrait. Et après, on a le problème de la crédibilité de la force de dissuasion, puisqu'on parle de dissuasion. Et la dissuasion, elle n'est crédible que si on est sûr que les engins vont marcher. Et je vous dis, dans les processus industriels, on a des dérives et il faut les recaler. Surtout quand on change de génération, de gens qui les ont fait, enfin, etc. Vous voyez, les jeunes arrivent, ils n'ont pas forcément la même expérience. Donc ils disent, ça, oui, mais ça servait à rien ou à pas grand chose, ou on va le changer à la marge. Et après, vous apercevez au bout d'un certain temps que ça ne marche plus. Donc, je vais vous donner un exemple d'expérience de physique. Tout le monde connaît la loi de Coulomb, que deux charges s'attirent ou se repoussent avec une loi en 1 sur R au carré. Et ça, elle a été faite avec la balance de Coton. Et aujourd'hui, malgré la description par Coulomb de la façon dont il l'avait fait, etc., on n'est pas capable de reproduire cette expérience en laboratoire. Parce qu'on a perdu la connaissance qu'avait Coulomb à l'époque. En revanche, on a plein d'autres...
La connaissance fondamentale.
Voilà, on a plein d'autres types d'expériences qui confirment la loi de Coulomb, mais on n'est plus capable de refaire l'expérience originale. On a perdu la technologie, en quelque sorte, si vous voulez. Ça a dérivé. Alors, on est capable de la reconstituer, mais ça marche pas. Vous voyez, donc pour les armements, c'est exactement la même chose, si vous voulez. On est vraiment c'est quoi. Donc moi, je suis partisan des essais parce que c'est la meilleure façon. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait en faire exploser tous les 4 matins, hein, mais de temps en temps avoir une confirmation qu'on a un truc qui marche. Voilà, ça c'est l'industrie. Moi, je viens de l'industrie, si vous voulez, et donc je ne peux pas, je connais les processus industriels. Si vous laissez un fabricant automobile en imaginant, vous voyez, je prends un autre exemple. L'Europe veut interdire les moteurs thermiques à partir de 2035 dans les voitures. Mmh. Écoutez, si en 2045, si quelqu'un veut faire une voiture à moteur thermique, ça risque de marcher moyennement, quoi. On va dire ça comme ça. Elle consommera beaucoup, oui, elle ne sera pas très bien. Donc, vous voyez, c'est ça le problème.
C'est-à-dire que dans l'industrie, je suis aussi ingénieur comme vous, dans l'industrie, quand on ne fait pas, on ne sait pas faire.
Exactement, on perd les compétences.
On perd les compétences. Quand on n'a pas tout le temps la main à la patte, on ne peut pas dire que parce qu'on maîtrise un peu la résolution des équations et tout, qu'on est capable de reproduire. Oui.
Exactement. Il y a une différence entre le papier... Ça marche toujours sur le papier et la réalité. L'ingénieur, vous connaissez ça comme moi. En général, c'est pas exactement la même chose.
Oui. Bien. Alors, pour la seconde question, François Genest, Durant les 70 années de paix entre l'Est et l'Ouest, la propagande officielle occidentale a renforcé l'idée que l'Occident peut tout faire et que Moscou tolérera tout. Donc, nous l'avons vu depuis la chute de l'Union soviétique, en particulier en 1991. Et actuellement, cela se manifeste de manière extrêmement claire en Ukraine. Et ces dernières années, la Russie a commencé à renforcer donc sa dissuasion nucléaire, mais jusqu'à présent, les mesures prises, comme vous l'avez dit à juste titre au début de votre première réponse, sont totalement insuffisantes selon des experts russes. Et les Occidentaux soulignent tout le temps, non, les Russes n'utiliseront jamais l'arme nucléaire et en même temps, ils veulent que les Russes ne soulèvent même pas cette question sous aucun prétexte, comme pour leur ouvrir la voie à une guerre sans fin en Ukraine. Et c'est ce que nous voyons avec les livraisons d'armes sans cesse et au grand jour, c'est-à-dire qu'ils ne se cachent même pas. Alors, ma question, pourquoi cet aveuglement? Est-ce parce que, comme ils le disent, le potentiel de leur complexe militaro-industriel conventionnel est supérieur à celui de la Russie et ils cherchent à épuiser la Russie dans un conflit larvé qui dure dans le temps? Qu'en pensez-vous?
Alors déjà, pour le complexe militaro-industriel, enfin ce qu'on a comme armement en Occident, enfin je pense que le conflit ukrainien a montré qu'on n'était pas au niveau... ni en performance, ni en capacité de production. On a un système dividende de la paix, enfin bon, etc., qui nous a amené à une capacité de production extrêmement faible. En plus, avec un système, financier qui l'accompagne, qui est basé sur les profits et pas sur l'efficacité. Donc le but des sociétés d'armement en Occident, c'est de faire du profit, c'est pas de faire des choses efficaces et pour servir l'État. C'est vraiment pour servir les actionnaires. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais ça se voit partout aux États-Unis et chez nous en Europe. En général. Donc, on a été bien contaminé par ce système-là.
Donc en réalité, ce sont, si j'ai bien compris, l'idée-là de fusionner beaucoup de groupes, dont de groupes géants et tout, ce n'était pas pour pousser l'efficacité dans la production, qu'elle soit scientifique ou technologique, mais pour surtout booster les actions en bourse.
Écoutez, effectivement, ça a été présenté comme vous le dites, c'est-à-dire on va améliorer l'efficacité, on va éviter les concurrences, en fait, etc., stériles. Et en réalité, oui, ça a été fait pour concentrer le capital, pour concentrer les profits. En plus, si ça met des sociétés en situation de monopole, ben, ça va permettre de multiplier les prix par deux ou par trois. Enfin, c'est malheureusement connu dans le domaine. Et voilà quoi, c'est un système. Bon, par ailleurs, j'avais commenté ça il y a bien longtemps maintenant. Et j'avais fait remarquer que quand on voyait, par exemple, au niveau européen, il y a une volonté de faire un marché européen de l'armement et de faire converger un certain nombre d'acteurs. Et en disant, sinon, regardez, il y a des pays, des petits pays entre guillemets, qui ont des petites entreprises qui vivotent, qui n'ont pas le même niveau que les autres, etc. Néanmoins, quand vous avez des équipes concurrentes, on a quand même deux avantages. Le premier avantage qu'on a, c'est que, et ça on le dit jamais parce que ce n'est pas valorisé par les actionnaires, c'est la compétence des gens. Quand vous avez travaillé sur un programme d'armement, même si vous n'avez pas fait un truc extraordinaire, vous avez acquis de la compétence. Ça, on ne le compte jamais. Or, si vous ne dupliquez pas les programmes, vous dupliquez pas les compétences et globalement, la compétence globale de la zone dans laquelle vous êtes va diminuer.
D'accord.
Parce que vous avez moins de gens qui travaillent sur un sujet et l'armement tire vers le haut parce qu'on demande la suprématie en général. Donc, on est vraiment dans le top des performances qu'on veut, de ce qu'on peut faire à la limite de la physique. Ça c'est vraiment une grosse perte. J'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Celle-là est vraiment fondamentale. On est dans une société où on n'est pas capable de valoriser la compétence en en équivalent argent, si vous voulez, puisque notre seule unité de mesure aujourd'hui, c'est enfin l'euro, le dollar, le rouble.
Mais François, Jean-François Genestet, est-ce que ça se répercute, parce que c'est grave, c'est-à-dire que, parce qu'en réalité, l'économie, l'industrie, c'est avant tout la créativité humaine, c'est la compétence, c'est pas l'argent, c'est pas les matières premières, c'est les idées qui précèdent la fabrication. Et est-ce que cela s'est répercuté sur les écoles où on forme les ingénieurs? Et est-ce que cela aussi explique un peu le retard des Occidentaux dans le domaine de l'hypersonique, par exemple?
Alors, pour les écoles, c'est une catastrophe. On a les processus de Bologne, que la Russie, d'ailleurs, a dénoncé, je crois, maintenant, officiellement. Moi, elle l'envisage. Ça, c'est ce qu'il veut mieux qu'il puisse leur arriver. Alors, je veux pas faire trop d'historique, mais enfin quand même, pour les écoles d'ingénieurs, comment ça s'est passé? On avait des systèmes disparates en Europe, et c'est en 1994, on a voulu faire la reconnaissance mutuelle des diplômes. Donc, on s'est assis autour de la table, et personne n'était d'accord. Donc, on est allé chercher un arbitre aux États-Unis, et tout le monde a reconnu en Europe que, quel que soit le pays, le niveau européen était bien supérieur au niveau américain. Donc, ça a été facile pour tout le monde de s'aligner sur le moins-disant qui était les États-Unis. Voilà comment on a tué notre système européen, 1994, on peut le dater. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'aux États-Unis, mais même ailleurs, enfin quand on essaye, hein, comme en France par exemple, mais aujourd'hui, on est incapable de faire un missile hypersonique parce que, de mon point de vue, les ingénieurs n'ont pas le niveau. Les coups des franges, si vous voulez, pour le faire. C'est-à-dire qu'on fait ça dans un système où, de toute façon, on ne regarde que combien ça va rapporter, combien on va investir pour combien ça va rapporter, etc., etc. Vous avez vu que quand il a fallu augmenter les cadences de production de certains armements en Europe, les industriels ont dit, passez-nous des commandes pour qu'on puisse avoir tablé sur quelque chose, une production donnée.
Aucune visibilité. Et par rapport donc à la Russie, comment la chose se présente pour justement faire un peu le parallèle sur ce qui se passe actuellement en Ukraine, quand on voit cette confrontation?
Alors, en Russie pour l'éducation, là, moi j'étais à Skoltek, hein, donc vous l'avez dit tout à l'heure, alors j'ai eu des, c'est international, donc j'ai eu des élèves entre guillemets de toute nationalité, des Indiens, pays d'Asie en général, si vous voulez, et puis j'ai eu des Russes que j'ai trouvé absolument excellents et pour lesquels je ne connais pas d'équivalent en France. Alors pas tous, hein. J'ai trouvé aussi des gens très très moyens.
Oui, bien sûr.
Je pense aux gens qu'on a spécialisés dans ce qu'on appelle les data scientists. Ceux-là, il y avait un vrai souci. Mais après, j'ai les gens qui venaient de MFTI là à Moscou. Ces gens-là sont brillants. Et encore une fois, nous n'avons pas l'équivalent en France de ces gens-là, ni même à l'école normale supérieure que j'ai fréquenté un petit peu en son temps. Donc, si vous voulez, donc ces gens-là, de mon point de vue, sont capables de sortir quelque chose d'extraordinaire. Hein, d'accord. Et chez nous, le problème, comme je vous l'ai dit, les rares qui seraient capables, parce qu'il n'y a pas de raison, statistiquement, on doit bien avoir quelques personnes qui sont quand même très très bonnes, le problème c'est que le système ne les laisse pas le faire.
Bien, alors pour pousser un petit peu plus l'analyse, depuis 1997, suite à la parution du livre de Zbigniew Brzezinski, dont le titre est « Le grand échiquier, la primauté américaine et ses impératifs stratégiques ». Je rappelle que la traduction française a gardé juste la première partie du titre en anglais, à savoir « Le grand échiquier ». Alors, tout le monde comprend le jeu des États-Unis qui tente de lier les mains de la Russie et espère à long terme la faire exploser avec cette longue guerre en Ukraine. Et par conséquent, affaiblir radicalement son principal rival, la Chine, si quelque chose arrive, sera donc face à l'Occident global toute seule. Et il s'agit d'un plan stratégique absolument clair. Donc, les Américains poussent également l'Europe à sa propre destruction en tant qu'acteur et concurrent stratégique potentiel, À leur tour, les élites, malheureusement, et chose qu'on ne comprenons pas vraiment, européennes, conduisent leur pays et leur peuple à la boucherie voulue par les anglo-saxons. Alors, est-ce que, j'ai une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'un durcissement de la doctrine nucléaire russe ne serait-il pas, in fine, le meilleur moyen de mettre un terme au délire des puissances impériales anglo-saxonnes ?
En ce conflit, tout le monde sait, depuis le début d'ailleurs, que l'Ukraine ne peut pas gagner contre une puissance nucléaire, c'est pas possible, ils sont plus moins nombreux, ils ont moins de ressources, enfin moins, etc. En plus, pour un pays hyper corrompu. Donc, il faut arrêter le bain de sang parce que même si on est pro-russe, je veux dire, on peut pas accepter que des gens meurent. Il y a plein d'Ukrainiens, la plupart des Ukrainiens sont, entre guillemets, innocents. Ils subissent leur système à eux. Ils sont pas responsables vraiment de ce qui arrive. Ils ont été manipulés. Le Maïdan a été manipulé, etc. Donc voilà. Enfin, je veux dire, malheureusement, les pauvres gens, comme d'habitude, payent les pots cassés. Et donc, arrêter le conflit serait bien. Voilà, ça serait.
Alors, ainsi s'achève la première partie de notre entretien, chers auditeurs. Je vous retrouve en compagnie de mon invité Jean-François Geneste pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS puis Airbus Group, actuellement PDG de Warpa. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology à Moscou. Jean-François Geneste, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors ma première question, lors de son premier mandat présidentiel, Walker Bush, a changé la posture nucléaire américaine et autorise, comme vous l'avez rappelé durant la première partie, le recours aux armes nucléaires en première frappe préventive, mettant ainsi fin à la doctrine de dissuasion. Et cette nouvelle doctrine a été rappelée sans équivoque fin septembre 2016 par le secrétaire à la défense de Barack Obama, Ashton Carter. Je cite, « C'est notre doctrine maintenant ». Et nous n'avons aucune intention de changer cette doctrine, a-t-il donc déclaré à la base aérienne de Kirtland au Nouveau-Mexique. Alors ma question, Jean-François Geneste, dans le contexte de la décision prise par Vladimir Poutine et le possible retour aux essais nucléaires de part et d'autre, à votre avis, le monde s'achemine-t-il de plus en plus vers un Armageddon nucléaire ? Est-ce que c'est un scénario qui est plausible ?
Alors, je vais avoir une réponse un peu ambiguë. La première partie, c'est de dire que si on fait des tests d'armes nucléaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles vont marcher. Donc, ça devrait être assez dissuasif. On est sûr que le matériel est bon. Et si ça fait un peu peur, comme le disait Karaganov, il faut abaisser le seuil pour que les Occidentaux réalisent qu'il y a un vrai danger pour eux. Je rappelle d'ailleurs que l'intérêt du nucléaire, hein, pour tous les gens qui nous écoutent, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ceux qui envoient les autres se faire tuer mourront aussi, parce que sinon ils meurent jamais. Je veux dire, les dirigeants envoient les autres se faire tuer, mais eux ils sont jamais touchés. Ouais. Hein, ils récolteront. Donc l'avantage du nucléaire, c'est que ceux-là aussi seront concernés pour une fois par les décisions qu'ils ont prises. Donc, et un des points qu'on peut soulever d'ailleurs assez philosophique, c'est est-ce que les dirigeants occidentaux aujourd'hui sont suicidaires ou pas ? J'avoue que j'ai un doute sur le sujet. D'accord ? Si ces gens-là sont suicidaires, on est mal barré entre guillemets. Bon, manifestement, les Russes ne sont pas suicidaires, les Chinois non plus. Donc c'est un soulagement de ce côté-là, mais je peux pas en dire. Je peux pas dire
que je sois soulagé. C'est ça que le professeur Sergueï Karaganov soulève tout le temps dans ses interventions. Il dit qu'il y a un abaissement du niveau intellectuel des dirigeants occidentaux, une incapacité totale à comprendre les enjeux qui se présentent à eux, et en même temps une espèce de déconnexion émotionnelle par rapport à la réalité, où ils pensent que la guerre c'est un jeu, on envoie, on gagne de l'argent.
Alors c'est un jeu, Puis aussi, enfin, quand on a un Biden qui est, comment dire, proche de la tombe, bien se suicider à la limite dans un contexte où l'euthanasie devient populaire entre guillemets, ça c'est pas rassurant, pas du tout. Dans un système où beaucoup des dirigeants, semble-t-il, dans le monde politique occidental, sont drogués, c'est pas beaucoup plus rassurant non plus. Donc franchement, à titre personnel, je suis très inquiet sur la comment dire, à la limite j'appuie sur le bouton, je m'en fiche, après moi le déluge comme l'ont dit certains auparavant, et ça c'est pas rassurant. Voilà, après pour le comment dire, est-ce qu'on est plus près aujourd'hui du seuil nucléaire ou pas? Alors à part cet aspect là occidental qui me fait relativement peur, je le dis, si les gens sont raisonnables, enfin la réponse devrait être non. Si on, je veux dire, c'est pas parce qu'on fait des essais qu'on se rapproche davantage de la guerre nucléaire. Au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on est sûr que ça va marcher, si vraiment ça fait peur, ça nous arrêter quoi. Alors que sinon, on pourrait entre guillemets parier. Hein, les Anglo-Saxons aiment le pari sur le comment dire l'obsolescence des armes adverses ou le fait qu'elles marcheraient pas ou qu'on arriverait à les parer par je ne sais quelle arme nouvelle, enfin, etc.
Mais justement, qu'est-ce que vous diriez encore par rapport à l'analyse du professeur Karaganov, pour qui il est nécessaire d'abaisser justement le seuil de l'utilisation des armes nucléaires, notamment tactiques, parce que le fait de le garder comme ça rend la dissuasion nucléaire russe un peu frivole et permet à l'adversaire de continuer l'agression avec des armes conventionnelles de plus en plus sophistiquées et qui peuvent justement amener à une catastrophe mondiale. C'est si l'on ne réagit pas à temps.
Alors, le nucléaire tactique hein, fait peur, mais en fait, il ne devrait pas faire peur parce que c'est de la bombe et on a malheureusement dans l'histoire eu des exemples où les bombes, enfin l'armement conventionnel a tué beaucoup plus que du nucléaire tactique. Si on regarde le bombardement de Dresde, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a tué plus que Nagasaki ou Hiroshima. Et on a d'autres exemples. À Verdun, si on remonte encore davantage, il y a eu plus de morts qu'à Nagasaki et Hiroshima avec du conventionnel et en plus vraiment ancien, quoi, dans la guerre de 14. Donc, si vous voulez... il faut pas, pour moi, le nucléaire tactique, c'est plus psychologique qu'autre chose. Le nucléaire stratégique tue les dirigeants. Le nucléaire tactique ne tue pas les dirigeants. Donc, il est moins intéressant dans ce sens-là, puisqu'il ne fait pas porter la responsabilité totale des décisions à ceux qui les ont prises. Donc, voilà. Et d'ailleurs, la dissuasion n'est que, de mon point de vue, stratégique. Il n'y a pas de dissuasion nucléaire tactique, c'est un bon outil pour être plus efficace sur le terrain, mais enfin pour moi c'est pas dissuasif, sauf contre un État qui n'aurait pas de nucléaire.
D'accord.
Mais alors c'est peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé qui peut être intéressant pour nos auditeurs, c'est la diffusion des technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le nucléaire est l'apanage de quelques pays. Mais vous savez, la technologie diffuse, donc elle sera accessible avec le temps probablement à d'autres pays. Et le jour où tous les pays de la planète auront l'arme nucléaire, mais il sera temps de penser à négocier au lieu d'imposer.
Tout en espérant ne pas avoir des cinglés.
Exactement. Hein, exactement.
Au poste de commandement.
Vous savez, par exemple. Oui. Mais vous savez, quand je vois aujourd'hui qu'on considère les Iraniens comme des cinglés, au moins en Occident. Je reste un peu pantois parce que quand nous on était études de peau de bête, ils inventaient les desserts, ils avaient une culture extraordinaire, ils ont une civilisation bien plus ancienne que la nôtre. Et je trouve ça un peu étonnant qu'on puisse être suffisant à ce point-là vis-à-vis d'autres civilisations.
D'accord. Bien. Alors pour la seconde question, on a Donc, au-delà de ce qui se passe actuellement en Ukraine, ou Proche-Orient, ou Moyen-Orient, on a le nouveau concept stratégique de l'Alliance Atlantique adopté l'année dernière, a mis devant le rôle de l'OTAN dans l'endiguement global de la Chine. L'OTAN, normalement, qui est l'Alliance Atlantique, comme son nom l'indique, et l'OTAN a même commencer à développer des liens avec les quatre États de l'Indo-Pacifique, à savoir le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la France et la Grande-Bretagne et l'Allemagne soulignent leur rôle aussi pour assurer une présence militaire dans la région Indo-Pacifique. À la limite, on peut comprendre la France qui est une puissance Indo-Pacifique, mais on ne comprend pas le rôle de la Grande-Bretagne, l'Allemagne et même de l'Union européenne dans cette région. Sur fond donc de formation de l'AUKUS, c'est cette alliance anglo-saxonne entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, sur fond fond derrière le dos que les Américains ont fait sur la question des livraisons des sous-marins nucléaires français à l'Australie. Alors la question, les États-Unis, est-ce qu'ils n'essayent pas d'entraîner tous les alliés de l'OTAN dans la défense de leurs intérêts étroits face à la Chine en Indo-Pacifique, et en plus de ce que la catastrophe a engendré le conflit en Ukraine, sur fond d'une guerre larvée pour juste sauver leur dollar et leur économie?
Alors, je pense qu'on peut voir ça, si vous voulez, d'abord pour regarder l'endiguement, il suffit de regarder une carte avec les bases américaines, entre guillemets, autour de la Russie et de la Chine. Et excusez-moi, ça sonne chez moi, mais donc entre la Russie et la Chine. La carte parle d'elle-même, c'est même pas la peine d'aller chercher plus loin. Ensuite, les États-Unis se comportent comme un véritable empire, ou comme un suzerain, comme on le voyait au Moyen-Âge, où le suzerain faisait appel à ses vassaux et partait en guerre, guerroyer contre l'anglois, comme on disait, mais si vous voulez, ça n'a pas changé beaucoup. C'est exactement la même chose, avec des moyens bien supérieurs, peut-être une remarque que personne n'a fait jusqu'à aujourd'hui, mais la mondialisation s'est mise en place petit à petit, et donc qu'il y ait une sorte de mondialisation militaire n'apparaît pas aberrant, en tout cas le constater. Et dans cette mondialisation militaire, il y a des adversaires, et c'est ce qu'on est en train de voir avec d'un côté l'OTAN, l'Occident, et de l'autre côté les BRICS, et avec des stratégies différentes. Enfin, c'est mon avis, hein. On peut ne pas le partager, mais je vois les choses comme ça.
D'accord. Bien, mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais quand même vous demander votre avis, Jean-François Genest. C'est sur la capacité de l'OTAN en termes financiers, armement et logistique. À titre d'exemple, donc depuis 2006, la référence pour la charge militaire de chaque pays membre de l'OTAN est de 2% du PIB. Et le deuxième élément majeur du critère de référence de l'OTAN est là justement la nécessité d'allouer au moins 20% des dépenses militaires au programme d'armement, et y compris la recherche et le développement. Mais parce qu'il y a un grand mais, les résultats de l'atteinte de l'objectif de 2% sont mitigés. Selon le dernier rapport du secrétaire général de l'OTAN, en 2014, la charge militaire moyenne des pays membres de l'OTAN, à l'exception des États-Unis, était de 1,43, et en 2022, elle était de 1,65. Alors, d'abord, que pensez-vous de cette situation? Et dans la situation d'endettement dont souffre l'Occident, de pratiquement tous les pays occidentaux, quels sont ces moyens pour continuer d'abord à soutenir l'Ukraine contre la Russie, et puis mener une politique en Indo-Pacifique?
Alors, pour ce qui concerne les budgets. Alors moi, j'avais écrit en 2007 ou 2008, je sais plus, un livre « Logique de défense, 30 idées en 200 pages », qui était un peu centré sur la France, et où je proposais qu'on dépense 3% du PIB en défense, dont de mémoire 70% en R&D. D'accord. Et qu'on passe pas en production.
70%. 70% en recherche et développement.
Oui, 70% recherche et développement, qu'on passe notre temps à faire des prototypes, qu'on fournirait aux armées, qu'elles utiliseraient, dont elles, on aurait un retour d'expérience. Mais parce qu'en fait, ce que je proposais, c'était un système où au niveau du Conseil constitutionnel, il y aurait eu un groupe spécifique qui ne pouvait qu'augmenter le budget de la défense, parce que la guerre n'arrive pas du jour au lendemain. Et donc, on était à 3% de R&D. Et si on décèle qu'on a un risque de guerre dans un terme assez court, 1 ou 2 ans, à ce moment-là, on passerait en production. Mais on produirait pas pendant une phase de paix normale. Et l'idée qui était la mienne, si vous voulez, c'est que les 70% de 3% du PIB à l'époque, avec un calcul un peu particulier, me permettait de dire que la France, à elle toute seule, donc avec un petit budget finalement, aurait, en termes de R&D et d'innovation, aurait dépassé les États-Unis sur tous les sujets. Tous. Alors comment? Parce que si on regarde l'aéronautique, hein, ce qui est mon domaine.
Mais c'est avec toute l'impossibilité d'application de ces programmes militaires dans le domaine civil. Et faire ensemble.
Bien entendu, oui. De toute façon, le système américain, c'est on développe dans le militaire et après on met ça dans le civil et ça a été payé par des budgets avec un dollar qui peuvent fabriquer à l'infini sans aucune pénalité. Donc ça, c'est quand même exorbitant comme avantage. Et donc en fait, si vous voulez, quand on regarde l'aéronautique civile, elle a eu des budgets aux États-Unis qui ont été de l'ordre de 2,5 à 3 fois ceux des Européens depuis 1945. Et on fait jeu égal avec eux. Donc, c'est qu'on est 2,5 à 3 fois meilleur. En gros, c'est c'est ça. Oui. Et dans le domaine des missiles, je crois que le rapport est de l'ordre de 12 ou 15. Et dans le spatial, il est de 25. D'accord. Donc, si on faisait de la R&D militaire, pour l'essentiel, sur 3% du PIB, la France, avec ces petits calculs d'apothicaire là, ça permettrait d'espérer qu'on ferait donc aussi bien, voire mieux que les États-Unis sur tous les sujets militaires, aéronautique, spatial, etc. Donc ça, c'était le premier point, si vous voulez. Donc moi, je suis favorable à des budgets. Bon, par ailleurs, faut que vous sachiez que j'avais développé aussi une théorie, celle que j'ai enseignée à Moscou là, justement à mes élèves. Si vous regardez, par exemple, alors on va prendre l'exemple de l'automobile, mais c'est partout pareil. Vous prenez les voitures. Alors, on a 3 segments, les petites, les moyennes et les grosses. Donc, on va prendre un segment. Prenons le segment des petites voitures. Elles sont toutes pareilles. Si vous les regardez, elles se ressemblent toutes. Alors, on pourrait penser que c'est l'aérodynamique pour pas consommer. Mais si vous ouvrez le capot, les technologies sont les mêmes, les moteurs sont les mêmes, les performances sont les mêmes, les prix sont les mêmes, etc. Et en fait, donc, j'ai mis au point une sorte de théorie mathématique qui permet d'expliquer que dans un marché équilibré, c'est un marché où les gens qui interviennent sur ce marché ont des parts de marché qui sont à peu près constantes dans le temps, ce qui est le cas de l'automobile. Et bien, tous les acteurs vont fabriquer les mêmes produits avec les mêmes performances, les mêmes coûts, etc. Et pourquoi? C'est parce que le système occidental est basé sur le profit. Et donc, on montre mathématiquement que ça amène les acteurs à converger vers les mêmes produits. Et le seul secteur qui échappe à ça, à ma connaissance, c'est la défense. Parce que la défense veut la meilleure performance et elle veut pas forcément la profitabilité. Alors, comme ça contredit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, dans les années 90, les États-Unis, et ils nous ont contaminés, ont introduit ce qu'ils ont appelé les technologies duales. Et donc, on a mis du civil dans le militaire. Et c'est là que les industriels ont vu l'opportunité de gagner beaucoup d'argent pour les actionnaires. Et c'est comme ça qu'on est allé dans le système qu'on connaît aujourd'hui. À l'origine, c'était pas ça. Et là, on a beaucoup perdu en termes de performance, justement. L'objectif est devenu l'argent et non plus la performance. Et les Russes, qui ont gardé un système de production étatique, ils ont gagné beaucoup, de mon point de vue, d'où les missiles hypersoniques.
D'accord.
Vous voyez un petit peu le paysage. J'ai oublié une partie de votre question en parlant de ça. Je me souviens plus ce que vous m'avez.
Je vous demandais justement ce que justement dans la situation de l'endettement de l'Occident, les pays de l'OTAN ont les moyens de justement en plus de soutenir l'Ukraine contre la Russie en Europe, d'aller se déployer en Indo-Pacifique.
Oui, alors les États-Unis, ils peuvent fabriquer du dollar autant qu'ils en veulent. Les Européens, pas forcément fabriquer de l'euro, même s'ils en fabriquent beaucoup de la même façon. Les choix sont différents. Donc, on voit bien, d'ailleurs, dans les chiffres que vous avez donnés, là, le 1,43 et le 1,65, on voit bien que ça traîne des pieds. Mmh. Alors, ça traîne des pieds pour plusieurs raisons. Il y a des problèmes économiques, certains, mais il y a aussi l'absence d'ennemis pour les Européens. Alors, nous n'avons pas d'ennemis en Europe. Enfin, pas d'ennemis connus, et ceux qui disent, qui font teinter le fait que la Russie pourrait envahir l'Europe demain après avoir réglé le compte de l'Ukraine, sont des menteurs. Vous qui êtes ingénieur, vous connaissez le deuxième principe de la thermodynamique, le vide n'envahit jamais le plein, c'est toujours l'inverse qui se passe. Or, il y a 500 millions d'Européens à l'ouest de la Russie, il y a 1,5 milliard de Chinois à l'est, et il y a 150 millions au milieu. Donc, si on applique les lois physiques de la thermodynamique, ceux qui risquent, c'est les Russes, c'est pas les autres.
Oh, ouais.
Et avec 150 millions, on peut pas maîtriser 500 millions d'Européens, c'est pas possible. Ça marchera jamais. Même intelligence artificielle et informatique aujourd'hui, avec une société de surveillance, ça ne marcherait pas. Donc, voilà. Enfin, qui pourrait être nos ennemis aujourd'hui en Europe? Ça n'a pas de sens. Par contre, il y a des gens qui attisent le système, qui sont les États-Unis, qui eux veulent maîtriser le globe, qui ont mis en place la stratégie de Mackinder depuis le 19e siècle, hein, qui est connue avec le Heartland, les Dreamland, etc. Et bon, voilà, on est là-dedans, divisé pour régner, comme d'habitude, et utiliser les vassaux qui se sont vassalisés, parce qu'on n'a pas toujours été, et qui aujourd'hui, a priori, ont aucune prérogative, quasiment, quoi.
D'accord. Alors, j'aimerais bien passer maintenant à la question suivante. Selon certains analystes, ce qui se passe en Ukraine est un affrontement entre deux philosophies et deux visions diamétralement opposées des relations internationales. La première est issue du traité de Westphalie de 1848 qui a donné naissance au concept de l'État-nation, de la diversité et du vivre ensemble. La seconde est celle du traité de Vienne de 1815 qui a consacré la domination maritime anglo-saxonne sur le reste du monde. Et donc, pour ces spécialistes, il est tout à fait clair que la politique extérieure des États-Unis et du Royaume-Uni, notamment depuis le démembrement de l'Union soviétique en 1991, a pour paradigme la philosophie du traité de Vienne, tout en donnant l'illusion de défendre et de faire avancer celle de Westphalie, notamment avec tous les trucs autour de la démocratie et des droits de l'homme. Alors, selon vous, y a-t-il un moyen de dépasser ce piège géopolitique et de donner une chance à la paix et à l'entraide sincère et positive entre toutes les nations du monde? Parce que on est dans une situation où il est nécessaire de pousser un peu la réflexion pour essayer de prendre les problèmes par le haut et trouver les moyens, d'autres moyens d'aborder les différences idéologiques et l'affrontement des intérêts que par ceux de la guerre, parce que on est vraiment au bord du précipice.
Oui, oui, je suis bien d'accord avec vous. Le problème, c'est que si on veut un monde de paix, il faut que tout le monde veuille la paix. Le problème, c'est que, un des problèmes, l'Occident a mis en place un système de concurrence. Entre concurrence et guerre, la frontière est ténue. Et donc, alors il y a ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand vous avez eu l'hégémonie, vous voulez pas la perdre. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On est jusqu'où on est prêt à aller pour ne pas la perdre, même si on voit qu'on perd pied petit à petit, etc. Et la question qui se pose aux États-Unis aujourd'hui, c'est en gros, est-ce qu'on accepte de perdre lentement mais sûrement parce que le monde change et parce que ils sont que 300 millions, ça fait 800 millions de personnes avec enfin, 1 milliard, le fameux milliard doré dont parle Vladimir Poutine, par rapport à 7 milliards. qu'on a commis l'erreur en Occident de transférer l'industrie en Chine. Donc c'est trop tard maintenant, ça se rattrapera pas, ça, elle reviendra pas, contrairement à ce que disent beaucoup d'hommes politiques chez nous. Donc là, si vous voulez, ou alors est-ce qu'on se dit, je vais faire une guerre, je vais tout casser pour conserver l'hégémonie, parce que je pense que j'en ai encore un peu sous le pied et que je peux gagner une guerre. La question est là. Alors on va passer, de mon point de vue, par un pic de risque. Vous voyez, alors éventuellement de guerre nucléaire, etc. Et si on arrive à le passer sans casse, le monde redeviendra plus serein. Mais on va passer par un pic. On n'est peut-être pas très loin du pic. Je n'en sais rien. Ça pète partout.
Alors, nous arrivons à la dernière question. Après les sanctions imposées à l'Union soviétique durant la guerre froide et à la Russie, en particulier depuis 2014 puis en 2022, l'économie russe est toujours résiliente et a même profité pour relancer l'agriculture et l'industrie, y compris dans les domaines de l'électronique et de l'aéronautique. Alors, quel est votre avis? Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi les économistes occidentaux se sont également lourdement trompés à l'image des spécialistes militaires sur cette question?
Alors déjà, je pense que les sanctions sont un bienfait pour les Russes, qui ont tendance à eux aussi vivre tranquillement. S'ils peuvent acheter quelque chose sans le faire, ils sont comme les autres, ils n'hésiteront pas. Donc ça, je l'ai pu le voir de mes yeux vus quand j'étais en Russie. Donc les sanctions sont bien, ça les oblige à faire ce qu'ils n'auraient pas fait autrement, ils seraient contentés d'acheter à droite à gauche. Pour ce qui concerne, donc, alors, ils ont un pays avec un potentiel considérable, avec des ressources, etc. Et on l'a évoqué tout à l'heure, une population qui est très éduquée, très très instruite, qui a un très bon niveau. Ça, c'est un avantage énorme. Et ils sont donc à même de mettre en valeur leur territoire. Voilà. Donc ça, si vous voulez, globalement, je pense que c'est très bien pour eux et qu'ils vont continuer. Et par exemple, quand j'étais à Skoltek, j'avais un collègue polonais qui enseignait là-bas, et son rêve à lui, c'était de cultiver l'ensemble de la Russie avec des machines gérées par intelligence artificielle pour en faire le premier producteur mondial de biens agricoles. Et honnêtement, c'est pas idiot. Alors, il y a quelques détails à régler, mais si vous voulez...
Pour un territoire aussi immense et dont la majorité est vide, ça serait vraiment une très très bonne idée à investir.
Mais si vous avez des robots, vous voyez, au lieu de faire des drones militaires, vous faites des drones agricoles, etc., et vous pouvez y arriver et avoir une capacité de production colossale, quoi. Donc, si vous voulez, ça, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour arriver à faire des choses très très bien. Ils ont des défauts, hein. Vous avez parlé de l'aéronautique. C'est un sujet auquel je suis sensible. Et je vais faire référence à ce que je vous disais tout à l'heure sur la théorie que j'avais développée. Si vous regardez les avions russes aujourd'hui, le MS-21, par exemple, ou le SSJ-100, ce sont des répliques d'avions occidentaux. Donc, ils n'ont pas innové dans ce domaine-là. Et ils ont un énorme problème à prendre des risques en termes d'investissement. Alors, je pense aux oligarques, hein, puisque c'est eux qui auraient plutôt les moyens d'investir. Ils ont d'énormes problèmes à investir dans des affaires qu'on pourrait qualifier d'un peu risquées et de long terme. Hein, puisque pour faire un avion, si on veut faire un avion de la feuille blanche qui ressemble pas à un avion d'aujourd'hui, il va falloir compter 8 à 10 ans. Et ça, manifestement, ils ont un système économique qui ne le permet pas. Leur système militaire le permet, parce que c'est étatique, et il y a une vision réelle politique des autorités russes, mais dans leur système civil, là, ils ont un vrai souci. Et donc, il faudrait qu'ils changent pour potentiellement, parce qu'ils en ont les capacités, encore une fois, devenir les leaders mondiaux dans certains domaines technologiques. Alors, peut-être l'aéronautique, peut-être autre chose, j'en sais rien, mais ils pourraient le faire. Mais aujourd'hui, si vous voulez, alors pour l'avoir regardé de près, ça, ils en sont incapables. Leurs oligarques ne sont pas capables d'investir sur du long terme et sur des projets risqués. C'est le seul sujet, à mon avis, sur lequel l'Occident a quelque chance de s'en sortir dans les années qui viennent.
D'accord. Alors, avant de terminer, j'aimerais bien vous poser une question sur le nouveau concept que vous avez développé dans votre entreprise Warpa sur le Terra Drone, le concept du Terra Drone et comment vous l'envisagez comme un instrument, un levier pour révolutionner le transport aérien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques minutes un peu ce concept et comment vous envisagez sa participation dans l'économie?
Alors merci pour cette question, je ne m'y attendais pas, donc c'est tant mieux. Alors écoutez, Terra Drone, c'est un dirigeable qui a 100 tonnes, entre 100 et 200 tonnes de charge utile. Donc si il est gonflé à l'hydrogène, il consomme de l'hydrogène, il a une propulsion électrique. C'est surtout ce qui est important, c'est ses propriétés. Il est tout temps, donc c'est-à-dire il a une disponibilité d'utilisation équivalente à celle des avions, quel que soit le temps. En gros, il peut décoller. Il est tout terrain, c'est-à-dire il peut se poser et décoller de n'importe où, sans installation au sol, rien, même pas une piste en goudron. Oui,
donc
un
terrain vague suffit
juste
pour.
Ouais. Exactement, et même pas forcément plat. Et ensuite, il a pas besoin de hangar pour le garer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de parking avec un grand hangar. Alors pourquoi je parle de hangar? Parce que les dimensions de l'engin, c'est 220 mètres de long, 110 mètres de large, 40 mètres de haut. Donc vous voyez, le hangar coûterait une fortune. Alors l'idée, c'est avant tout de faire du fret, de marchandises, de point à point. Avec un coût de 10 centimes d'euros la tonne kilomètre, ce qui le rend compétitif par rapport au train, à l'avion et au camion. Le bateau est plus compétitif, mais le bateau va de port à port, il y a ce qu'on appelle des ruptures de charge, et donc il faudrait regarder, ça dépend de là où on va, etc. On va voler relativement vite, mais pas très vite, hein, entre 60 et 120 km à l'heure. Il a une autonomie de 60 000 km, c'est-à-dire une fois et demie le tour de la Terre à 60 km à l'heure.
Quand vous dites qu'il a une charge utile entre 100 et 200 tonnes, à quelle altitude?
Alors, l'altitude de vol, c'est entre 1000 et 2000 mètres.
D'accord.
C'est l'altitude commerciale, d'accord? L'engin lui-même peut monter à 7000 mètres. Et à ce moment-là, il n'a plus que 15 tonnes de charge utile, mais il a des applications militaires à ce moment-là. Et on va être clair là-dessus, d'observation, de relais de télécom, de choses comme ça. Et quand j'ai dit entre 100 et 200 tonnes, normalement, c'est 100 tonnes avec 60 000 kilomètres, mais on a 118 tonnes d'hydrogène carburant. Et si on met 200 tonnes et seulement 18 tonnes d'hydrogène carburant, on a 5000 km de rayon d'action, ce qui est quand même pas mal. Alors après, pour le transport de passagers, par exemple, j'avais fait une proposition au Congo-Kinshasa, puisqu'on a des gens qui nous écoutent en Afrique.
C'était justement, j'allais vous poser cette question-là, sur le prix, et est-ce que vous pensez que votre engin est accessible aux pays africains qui n'ont pas de gros moyens de s'offrir des avions à des centaines de millions d'euros? Absolument. Et ça, donc, d'un côté. Et puis, d'un autre côté, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, j'ai vu dans un dessin de votre dirigeable Terra Drone une croix qui me fait penser à un hôpital. C'est que cette idée-là?
Alors, c'est un hôpital volant, puisqu'on a entre 100 et 200 tonnes, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est de faire un hôpital volant, à la fois pour des pays comme l'Afrique, où vous avez des populations qui sont isolées, etc. Et aussi, par exemple, pour les déserts médicaux français, puisque le problème qu'on a pour les déserts médicaux, c'est que les médecins veulent habiter en ville, parce qu'ils ont un conjoint qui, lui, n'est pas forcément médecin et veut pas aller s'installer à la campagne. Donc, vous voyez des choses comme ça. Et après, le Canada, la Russie, il y a tous les grands pays ont des problèmes de cet ordre-là. Pour Kinshasa, je reviens. Donc, pour faire 5000 kilomètres, on pourrait faire un trajet qui reviendrait à 50 euros par passager. Vous voyez, alors, c'est un peu plus long que... c'est un peu plus long qu'un avion parce qu'on va voler moins vite, mais pour des pays où les gens ont moins de moyens, ça pourrait être un début.
Je vous propose que vous reveniez nous voir dans mon émission pour en parler beaucoup de ce concept-là et comment il pourrait aider les pays africains à se développer, étant donné que nous sommes Sputnik Afrique, nous travaillons aussi dans ce sens à ouvrir les yeux à nos amis africains sur les belles idées de futur qui ne concernent pas uniquement leur pays, mais le monde entier, mais dont ils pourront bénéficier et même les premiers. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Jean-François Jeunesse, je vous remercie pour tout cet effort-là. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale avec ses multiples facettes et conséquences. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci beaucoup.
C'était Jean-François Jeunesse, ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS Airbus Group, actuellement PDG de Warpa. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology à Moscou. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.